pour le peuple de Dieu, c'était la présence de Dieu. Puis ce tabernacle est entré en Israël, dans le pays promis, et donc jusqu'à l'époque de David, on a eu ce tabernacle. Pour un juif, entrer dans le tabernacle, c'était entrer dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça que lorsque vous lisez les psaumes de David, les psaumes des fils de Corée notamment, les fils de Corée qui étaient les descendants de Corée, la révolte de Corée, mais c'était les descendants, ils avaient un amour de la présence de Dieu et ils disaient « Mais Seigneur, j'aimerais tellement entrer dans ton sanctuaire ». Dans ton sanctuaire, dans ta présence. Et vous trouvez ça notamment dans le psaume 42, le psaume 43, le psaume 84. Et David, vous savez très bien que David lui-même avait un profond amour pour la présence de Dieu. Et donc, il a eu à cœur de ramener ce tabernacle. Je rentre pas dans le détail, mais à un moment, il a dit, moi, Dieu, je voudrais maintenant que tu aies une habitation digne de ce nom, et j'en ai assez, que tu aies une tente de camping. Et moi, j'aimerais bien que tu aies un vrai temple, après tout, autour de nous, les peuples autour de nous. Eh bien, les dieux, pour les faux dieux, il y a des temples. Eh bien, moi, je voudrais bien que Dieu, il ait un temple. Alors Dieu lui a dit, mais oui, tu as eu raison, c'est bien, mais ça sera ton fils Salomon qui le construira. Et vous savez que lorsque Salomon a construit le temple, le fameux temple de Jérusalem, il a construit sur le mont Morija, ça fait référence au sacrifice d'Isaac, enfin le sacrifice qu'il n'y a pas eu, bien sûr, mais sur le mont Morija, c'est sur l'aire d'Ornan. Et là, Salomon a construit ce temple. Et la Bible dit que lorsque Salomon a construit ce temple, il a été inauguré. Et une fois de plus, la présence de Dieu est descendue comme un nuage. Et c'était tellement fort, la gloire de Dieu était tellement forte que le peuple, que les sacrificateurs ne pouvaient plus rentrer dans ce temple. Puis Salomon, lorsqu'il y a eu l'inauguration, après Salomon a prié, a offert des sacrifices, il a fait une nouvelle prière, et la Bible dit que lorsqu'il a offert ce sacrifice, le feu de Dieu est descendu sur le sacrifice de Salomon, et une nouvelle fois, la nuée est descendue. Dieu témoignait qu'il a porté son approbation à ce lieu symbolique, ce lieu de sa présence. Puis, vous le savez, au cours des années, le peuple s'est éloigné de Dieu, il y a eu l'exil, il y a eu les Babyloniens, qui ont envahi Israël, et vous arrivez à la fin des livres historiques, et dans Jérémie notamment aussi, à la destruction du temple de Jérusalem par les Babyloniens en l'an -587, c'est-à-dire à peu près 4 siècles après la construction du temple par Salomon. Puis vous passez 70 ans à peu près, et vous arrivez en l'an -515, avec l'édit de Cyrus, et là, avec l'encouragement des prophètes, le peuple décide de construire un deuxième temple. À l'époque d'Esdras, si vous lisez le livre d'Esdras, on est en -515. Ce temple a mis à peu près 15 ans pour être construit, et vous savez que lorsqu'on a inauguré ce temple, vous le lisez dans le livre d'Esdras, il y avait les nostalgiques et il y avait les gens heureux. Les gens heureux étaient contents parce que le temple était rebâti, et les nostalgiques étaient malheureux parce que ce temple était beaucoup plus modeste, beaucoup plus humble que le temple de Salomon. Et là, il y a quelque chose de particulier, c'est que lorsque ce temple a été construit, ce deuxième temple, il n'y a pas la nuée qui est descendue, il n'y a pas la gloire de Dieu qui est descendue, et il y a aussi quelque chose de particulier, c'est que dans le temple, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'Alliance, c'est-à-dire un coffre qui contenait les tables de Moïse. Et sauf que dans le deuxième temple, ce coffre n'y était plus, puisqu'il avait disparu depuis la captivité de Babylone. Donc vous aviez un lieu très saint qui était vide, qui n'avait plus ce coffre. Et à cette époque-là, lorsque Dieu a encouragé le peuple, vous lisez dans le prophète Agée, on va le prendre tout de suite, Dieu, donc à peu près 15 ans après le début des travaux et 5 ans avant l'inauguration, vous lisez dans le prophète Agée au chapitre 2 et au verset 3, Dieu dit, « Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première ? Et comment la voyez-vous maintenant ? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux ?» Et au verset 9, vous lisez, Dieu dit, verset 9, directement, la gloire de cette dernière maison, du temple, sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alors, est-ce que ça s'est accompli ? Non. Non. La gloire de cette deuxième maison n'a pas été supérieure à la gloire de cette première. Ce n'est pas dans ce lieu qu'il y a eu la gloire de Dieu d'une façon supérieure. Ce n'est pas dans ce lieu que Dieu a donné la paix. Est-ce que Agé était un faux prophète ? Non. Agé, dans ce verset 9, parlait clairement de la fin des temps et annonçait clairement la venue de Jésus. Et il annonçait que en Jésus, la gloire de la présence de Dieu dans le temple serait bien supérieure à ce que le temple de Salomon avait connu. Et pour terminer sur cette histoire de temple, on aura terminé pour cette petite introduction historique, parce qu'on n'est pas là pour faire un cours d'histoire, mais je termine rapidement. Pour terminer, ce deuxième temple qui a été construit a duré 5 siècles, puis à l'époque du roi Hérode, Hérode le Grand, du Nouveau Testament, vous le savez, le roi Hérode, en l'an moins 20, 20 à peu près donc 16 ans avant la naissance de Jésus, puisque Jésus est né à peu près en moins 4, donc en moins 20, le roi Hérode le Grand a décidé de bâtir le temple, le nouveau temple de Jérusalem, c'est-à-dire qu'il a nivelé complètement ce second temple jusqu'aux fondations, il a laissé les fondations, et il a construit un temple absolument magnifique, extraordinaire, qui a mis 84 ans de travaux, puisque c'est le même temple que vous avez à l'époque de Jésus, ce temple qui, à l'époque de Jésus, était encore inachevé, ce temple qui a été terminé en l'an 64, juste pour être détruit 6 ans après, à l'époque de l'invasion des Romains par le général Titus, en l'an 70. Donc 70 ans de travaux, 84 ans de travaux plutôt, pour 6 ans d'existence réelle, avant d'être détruit. Et ce troisième temple, qui est toujours appelé le deuxième temple, mais c'est un troisième si on veut, ce temple n'a pas non plus connu la gloire de Dieu d'une façon supérieure, puisque même Jésus, lorsqu'il est rentré dans ce temple, a dit « Vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs ». Et vous le savez que lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, le temple avait ce voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, le lieu très saint où on entrait vraiment dans la présence de Dieu, et ce voile a été déchiré pour symboliser notre entrée dans la présence de Dieu. Et dans ce lieu très saint, il n'y avait toujours pas l'arche de l'Alliance, puisqu'elle avait disparu. Et alors, cette gloire, je voudrais vous parler donc justement de cette gloire supérieure pour vous dire que le temple que Dieu a donné n'est pas un temple en pierre, en bâtiment, en dur, mais Dieu a décidé d'habiter dans nos cœurs, dans le cœur des humains. Et il a décidé de faire de chacun d'entre nous des temples. Et c'est de ça que je voudrais vous parler, une gloire supérieure dans le temple, dans le corps, dans le cœur du chrétien. On peut lire Jean chapitre 14, verset 23. Jésus disait, avait annoncé à ses disciples, Jésus leur répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Et oui, par son sacrifice, Jésus nous a donné le pouvoir de recevoir la présence du Dieu vivant dans notre vie, dans notre cœur, et que nous soyons l'habitation de Dieu. Et vous lisez 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Alors c'est bien parce que j'ai mis des petits post-it pour gagner du temps. Au moins, je ne cherche pas. J'ai réinventé le marque-page. Je suis un génie. Corinthiens chapitre 3, verset 16, l'apôtre Paul dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Amen. On peut se le dire « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Est-ce que tu es le temple de Dieu, mon frère, ma sœur ? Parce que Jésus a pardonné tes péchés, parce que son sang a coulé, tu es devenu l'habitation de Dieu. Que tu sois beau, que tu sois moche, que tu sois handicapé, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois méprisé, que tu sois riche ou pauvre, tu es l'habitation du Dieu vivant. Amen. Amen. Il n'y a pas de différence entre nous. Chacun de nous porte la personne de Dieu en lui. Nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes juste que des habitations de Dieu. Pas confondre. Faut pas confondre. On se prend pas pour Dieu. Ah non. Chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens, toujours chapitre 6, verset 19. L'apôtre Paul dit la même chose. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» Votre corps aussi. Votre corps. On parle toujours du corps, de l'âme, le corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le corps d'être saint ? Il ne doit pas être sali. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? C'est très important la fin. Eh oui, que vous appartenez à vous-même. J'appartiens à Jésus, j'appartiens plus à moi. Je ne m'appartiens plus. Et après, il y a une progression. Dieu habite en moi, mais il y a plusieurs façons d'habiter en Dieu, en moi. Vous savez ça ? Il y a plusieurs façons d'habiter. Vous savez, je me suis dit, j'ai réfléchi, comme ça, peut-être que ça va vous parler, c'est très simple ce que je vais vous dire. Il y a Dieu qui, il y a des gens, il y en a qui considèrent Dieu comme un dépanneur. SOS dépannage. C'est super les dépanneurs. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un dépanneur de machine à laver. C'est un taliban du dépannage. Il arrivait chez moi à 10h, il est parti à 11h30 du soir. Et il m'a dépanné ma machine à laver. Alors, on est content d'avoir un dépanneur. Parfois, Dieu est considéré comme un invité temporaire. Parfois, il est considéré comme un invité fréquent. Il vient souvent. « Seigneur, mais je suis content, tiens, petite visite, ça me fait du bien. » Parfois, il est considéré comme un résident, un habitant permanent, non propriétaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'est pas propriétaire, il habite. Parfois, il est considéré comme un propriétaire non résident. Vous me suivez ? Parfois, il est considéré comme un propriétaire partiel. Une partie. Mais il faut qu'il soit considéré comme un propriétaire total, résident permanent. Amen. Au moins, ça, je pense que vous allez vous en souvenir si vous avez oublié tout le reste, si vous avez oublié l'histoire du roi et roi des temples, ça, au moins, s'en souvient. Résident permanent, propriétaire. Et Jésus dit, Jean chapitre 15, verset 4, il dit, on connaît bien ce verset, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment, ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » Ouais, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous », ça veut dire que ouais, il y a plusieurs façons d'habiter. Ça veut dire que, voilà, Dieu il demeure en moi, mais si je demeure en lui... Vous comprenez ce que je veux dire ? Moi, je vous fais lire que les versets. Hein. Et la première épître de Jean, au chapitre 3 et au verset 24, je crois, dit « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. » Et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Donc, ça veut bien dire que il y a plusieurs façons d'habiter en nous. Et enfin, Éphésiens, chapitre 3, verset 17, l'apôtre Paul dit, il prie pour que Dieu, que Christ, il prie en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Donc vous voyez que, si l'apôtre Paul prie pour des chrétiens, pour que Christ habite dans leur cœur par la foi, ça veut dire que Christ habite dans leur cœur, mais il veut qu'il habite d'une façon... plus large, plus... Comprenez ? Et c'est très pratique ce que je vous dis ce matin, mais vous savez, moi, des fois, ça m'arrive de prier, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Tu vois, j'ai dit, Seigneur, tu vois, là, on a tous des tentations, on a tous des points faibles, des hauts, des bas. Parfois, on prie, et des fois, on dit, Seigneur, est-ce que vraiment j'ai péché, pas péché ? Vous voyez ce que je veux dire ? On est tous comme ça. Il n'y en a pas de mieux que l'autre. Et le mieux, moi j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tu vois, écoute, tu es le propriétaire, tu peux visiter toutes les pièces, il n'y a rien qui t'est caché, alors vas-y, ne te gêne pas, si tu as quelque chose à me dire, dis-moi-le. Quand on n'a rien à cacher, c'est très pratique, parce que Dieu, ce n'est pas notre ennemi, c'est notre ami, et s'il y a un point faible, il n'est pas là pour nous dire, ah, t'as vu, t'as péché. Non, il est là pour nous aider. Amen. Alors, Christ, propriétaire, résident, quelles conséquences ? Galates, chapitre 2, verset 20. Finalement, mes marque-pages, ils ne servent pas beaucoup parce que je trouve plus... l'apôtre Paul, un verset très connu, dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. » J'ai été crucifié avec Christ. Donc, la conséquence de Dieu qui habite en moi, c'est que non seulement je sais que Jésus est mort pour moi, mais je dois mourir avec lui, mourir à mon ancienne vie, mourir à mes anciennes tendances, mourir à mon passé, mourir à mon vieil homme, à mon ancienne nature. Et aussi, je suis ressuscité avec lui à une nouvelle nature. Amen. J'ai été crucifié avec Christ, et si, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Et après, il dit, la traduction, elle n'est pas terrible, c'est pas si je vis, c'est pas, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Hein, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. En fait, c'est vraiment écrit, ce que je vis dans mon corps, je vais vous le traduire vraiment comment c'est écrit dans le grec, ce que je vis dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. L'apôtre Paul dit, mais voyez, c'est vrai, j'étais crucifié avec Christ, mais je suis dans un corps. Et je vis des choses dans mon corps, physique. Mais je vis dans la foi au Fils de Dieu ce que je vis dans mon corps. C'est ça qu'il dit vraiment. Alors j'ai été crucifié avec Christ. Et Christ, j'ai été crucifié avec lui. L'épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 21, un autre point. C'est que des versets très, très connus, qu'on peut tous connaître par cœur d'ailleurs. On les connaît par cœur en général. Christ est ma vie. Et la mort ou mourir m'est un gain. La mort m'est un gain. Mourir m'est un gain. C'est pareil. Littéralement, c'est écrit, pour moi, vivre, c'est Christ. Pour moi, vivre, c'est Christ. Et mourir, c'est un gain. Et vous voyez, pourquoi je dis ça? Parce que le fait que Dieu soit le propriétaire, soit l'habitant en moi par la personne de Jésus, grâce à son sacrifice, grâce à son sang qui m'a pardonné, alors ma vie a d'autres priorités. Pour moi, vivre, c'est Christ. C'est-à-dire que toute ma vie tourne autour de Jésus. On n'est pas des mystiques, on a des centres d'intérêt sur la terre, on a tout ce qu'on veut, mais la priorité numéro un de ma vie, c'est Christ. Et quel équilibre vous voyez dans l'apôtre Paul? Parce que l'apôtre Paul, vous voyez, parfois dans l'histoire de l'Église, on voit des gens qui étaient un peu mystiques et ils n'avaient envie que d'être des martyrs. Il y a des pères de l'Église qui ne pensaient qu'à mourir pour Dieu. Mais Dieu nous demande aussi de vivre pour lui. Et l'apôtre Paul dit, mais pour moi, je suis ni morbide, ni accroché à la vie. Si je vis, c'est pour Christ. Si je meurs, c'est avec Christ. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans les deux cas, de toute façon, tout est bien. C'est Christ le centre de ma vie, que je sois vivant ou que je meure. Et c'est très bien ça. Un troisième passage, c'est Colossiens chapitre 2, verset 10. Qui dit, c'est aussi ces versets très connus, « Vous avez tout pleinement en lui, en Jésus ». Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. Pareil, je vais vous donner ce que dit vraiment le grec. Vous êtes réellement ce qui est écrit. Vous êtes rempli, vous êtes complet en lui. C'est ça qui est écrit. Vous êtes rempli, vous êtes complet en Jésus. Ça veut dire que, quelles que soient tes aspirations profondes, spirituelles, tu n'as pas besoin de chercher dans des choses mystiques. Tu n'as pas besoin de chercher dans des spéculations. Tu n'as pas besoin de chercher dans des philosophies. Il y a des tas de choses qui sont bien ou pas bien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a que Christ qui peut te satisfaire profondément. C'est lui qui a dit à la Samaritaine, « Mais tu auras une source d'eau vive en toi. » Et je peux vous témoigner, frères et sœurs, et il y en a plein qui peuvent le témoigner. Vous savez, j'aime beaucoup lire. J'aime beaucoup lire, je lis beaucoup de livres, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, de toutes choses, voilà, même trop des fois. Mais il n'y a rien qui ne remplit autant mon cœur que la présence de Dieu que de lire la Bible. J'ai lu des centaines de livres, mais il n'y a rien qui ne reste aussi frais, aussi merveilleux, aussi magnifique que la Bible. Je peux vous le témoigner. Même si vous n'êtes pas intellectuel, vous n'êtes pas perdant. Vous avez la Bible. Et vous avez Jésus qui vous dit, mais tu peux être rempli complet en moi. Tu peux être rempli complet en moi. Laisse Jésus te remplir. Et Colossiens chapitre 1, verset 27 dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous avons cette espérance pour aller au ciel. Et alors, un dernier grand point, et on aura terminé. Christ au centre de ma vie, le temple, nous sommes le temple, et l'Église. L'Église, c'est un rassemblement de petits temples et qui donne un temple. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ici, aujourd'hui, nous ne sommes pas au temple. Nous ne sommes pas au temple, mais nous sommes au temple quand même. C'est-à-dire que nous ne sommes pas au temple dans un bâtiment, mais nous sommes au temple dans la mesure où nous formons un temple de Dieu en étant réunis. Quelle que soit notre dénomination, du moment que nous sommes chrétiens appartenant à Jésus, que nous avons été pardonnés, sanctifiés par son sang, lorsque des croyants sont réunis en son nom, alors ils sont un temple de Dieu, où la manifestation de Dieu est. Et l'apôtre Paul dit au chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 21, il dit « En lui, tout l'édifice bien coordonné, l'édifice, la construction, le temple bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui aussi, vous avez été édifié, construit pour être une habitation de Dieu en esprit. » Et il parle bien de l'Église, là. En lui, donc, vous êtes édifiés pour être un temple saint dans le Seigneur. L'Église, elle est sainte. Et si l'Église est le temple de Dieu, alors nous avons soif que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que cette gloire qui veut se manifester dans notre cœur, et on terminera sur ça tout à l'heure, que cette gloire se manifeste aussi au sein de l'Église. Nous avons soif qu'au sein de notre rassemblement, de l'Église que nous sommes nous, et n'oublions pas que si nous critiquons l'Église, ben nous critiquons nous, puisque l'Église, c'est nous. Quand on dit « l'Église n'a pas d'amour », je dis « j'ai peut-être pas d'amour, puisque l'Église, c'est mon nous ». Et donc, nous avons soif que dans cette Église, la gloire soit supérieure et que nous voyons encore davantage des choses qui se passaient dans les Actes des Apôtres au début. Et vous savez, dans l'histoire de l'Église, il y a toujours eu des moments de déclin et des moments de réveil, y compris dans la Bible. On lit toujours les Actes des Apôtres, chapitre 2, chapitre 3, c'était le feu, et il y avait des conversions, il y avait des prodiges, il y avait des miracles, mais on oublie de lire que la suite du Nouveau Testament, et où on voit déjà qu'il y avait des périodes de déclin dans l'Église du Nouveau Testament. Et donc, ce n'est pas un fait inéluctable. Lorsque nous sentons que, aussi bien pour notre cœur que pour une Église, que nous sentons que nous sommes en train de nous refroidir, alors nous avons juste besoin de revenir au Seigneur et de dire « Seigneur, fais-nous voir à nouveau cette gloire au milieu de nous, qui fait que ta présence se manifeste et que les prodiges, les miracles reviennent encore plus, que les conversions de Dieu reviennent encore plus, et que comme il est écrit, comme il a dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 14, que lorsque quelqu'un rentrera, viendra au milieu de vous, il sera confronté à la révélation de Dieu, et il se prosternera et il dira « Mais Dieu est réellement au milieu de vous ». C'est ce que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens. Pourtant, l'Épître aux Corinthiens, le Corinthe, ce n'est pas un modèle. Hein. Mais bon, vous voyez, Dieu se sert de notre petitesse et de notre faiblesse, chacun d'entre nous, pour manifester sa gloire. Et c'est vrai que cette gloire de Dieu se manifeste au milieu de gens très imparfaits, dont moi le premier, mais cette gloire veut se manifester. Je termine sur ce point. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. C'est vraiment ma conclusion. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », ça, il a dit ça quand ? Il a dit ça quand, Dieu ? Ben dans le livre de la Genèse, quand il a créé le monde, que la lumière soit. L'apôtre Paul, il cite la Genèse, là. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », au passage, donc ça veut dire que pour l'apôtre Paul, la Genèse s'était inspirée et que la création s'était inspirée. Je dis ça juste au passage. Hein. Pour certains qui auraient quelques doutes sur l'inspiration de la Genèse, sur la création, je vous signale quand même, parce qu'il y en a qui font une différence entre l'inspiration entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Hein. Il y en a. Ils vous disent « Mais oui, le Nouveau Testament, c'est inspiré, mais l'Ancien Testament, c'est pas inspiré. » Je dis ça au passage. Je vous dis quand même que l'apôtre Paul a cité la Genèse. Jésus aussi, d'ailleurs, il a cité le Pentateuque. « Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et la parole vivante dit, traduit, « Afin que nous puissions, à notre tour, refléter la lumière de la connaissance de Dieu et faire resplendir sur les autres la gloire divine qui rayonne sur le visage de Jésus-Christ. Ça veut dire, en français courant, pour moi, que je comprends, que Dieu qui a fait briller sa lumière dans mon cœur veut que les gens voient le visage de Christ en me voyant, en voyant ma vie, en voyant mon attitude. Je pense que j'ai beaucoup de progrès à faire. J'ai beaucoup de progrès à faire. Moi, des fois, je crois que je suis bien, et puis je ne suis pas si bien que ça, je le sais. Et vous savez, il n'y a rien de tel que d'être confronté aux gens du monde autour de vous. Vous savez, c'est bien ce qu'on pense de nous, mais ce qui est plus intéressant, c'est ce que les autres pensent de vous. Et ceux qui vivent avec vous, encore plus. Ah oui. C'est très bon, notre opinion sur nous, mais vous savez, ça ne va pas nous amener loin, notre opinion sur nous. Et encore mieux, l'opinion de Dieu. Et donc, c'est vrai que notre ambition, c'est que ce temple que nous sommes en tant qu'individu, en tant qu'Église, puisse vraiment refléter davantage le visage de Jésus, afin que le monde puisse voir que Dieu est vivant, qu'il y a un Dieu d'amour, que notre prochain, que notre famille, que nos collègues de travail puissent voir qu'il y a un vrai Dieu qui existe, parce qu'ils diront, mais celui-là, cette Église, cette personne, elle a quelque chose, elle a une personne, on voit qu'il y a un Jésus en lui. On voit que malgré ses défauts, malgré ses failles, malgré ses imperfections, malgré peut-être ses coups de colère parfois, malgré tout, personne n'est parfait, malgré tout, on voit qu'il y a Jésus en lui. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce en milieu de nous, merci pour ta bonne présence, merci parce que tu es là, Seigneur, et tu te tiens au milieu de nous, et nous voulons vraiment refléter la gloire de Dieu au milieu de nous, Seigneur, dans notre cœur. Seigneur, donne-nous, oh Seigneur, donne-nous de ressembler à Jésus. Amen.